Un vieux manuscrit se transforme en opéra moderne et resplendissant. C'est l'aventure de Veremonda, l'Amazzone di Aragona.
La Veremonda est une œuvre du compositeur baroque Francesco Cavalli qui a été oubliée pendant 400 ans. La journaliste américano-suisse Alison Zurflou s'est alliée au photographe genevois Michel Juvet pour documenter cette résurrection. Le résultat est un très beau livre de photos, de récits et d'interviews qui vient de paraître aux éditions Gliori.
Bonjour Alison Zurflou.
Bonjour.
Vous êtes californienne d'origine, mais ça fait 20 ans que vous habitez en Suisse et à Moutier à présent. Vous êtes rédactrice en chef de deux magazines et passionnée d'opéra. Alors l'opéra, souvent on s'imagine que c'est quelque chose d'un peu barbant. Vous nous démontrez que c'est pas vrai. Qu'est-ce qui vous passionne dans cet art ?
Alors l'opéra, je le trouve absolument captivant dans le sens qu'il y a tant de thèmes de passion, d'intrigue, de déception. Et on a l'habitude de penser que c'est une chose poussiéreuse, quelque chose qu'il faut s'habiller bien pour aller dans un théâtre et rester très formel pour l'écouter. Et ce n'est pas du tout comme ça. C'est une chose qu'on peut, relate to très, très facilement.
Comment est-ce que vous avez découvert cette œuvre qui a été restée dans les oubliettes pendant 400 ans, Veremonda ?
Alors, c'était par le chef d'orchestre Aaron Carpenet qui m'a invité de venir écrire un article. Et j'ai pris avec moi, donc on a décidé d'aller ensemble avec Michel Juvet pour faire un article sur cet opéra. Et il nous a fait découvrir ce monde d'opéra. Comment ça fait qu'un manuscrit se transforme? Lui, il est allé dans la bibliothèque, Aaron Carpenet. Il a étudié maintenant cette manuscrit à Venise. Et il nous a montré comment ça se fait. Il nous a invités dans ce monde de voir les artistes, les chanteurs, tous les éléments d'un opéra.
Et cet opéra-là, il raconte quoi comme histoire?
Alors, ça se passe en 1462, durant l'expulsion des Maures de la péninsule ibérique. Et il y a la guerre. Et la protagoniste, la reine espagnole Veremonda, ne comprend pas du tout pourquoi son mari, le roi Alfonso, n'attaque pas l'ennemi. Elle, plutôt garçon manqué, et lui, plutôt intellectuel, ça l'irrite. Et elle commence de former une armée d'elle-même, une armée des Amazones. Alors donc, d'où le titre Veremonda, l'Amazone di Aragona. Et elle forme cette armée et elle lance la guerre.
Ça, c'est génial, ça, comme histoire. Une dame qui décide, bon, bah, moi, je vais prendre les choses en main, je vais faire mon club d'Amazon et attaquer la forteresse.
Oui, elle s'habille aussi en homme, donc en guerrier, donc, et d'autres s'habillent en femme. Donc, il y a tout ce cross-dressing, toute cette confusion aussi entre les genres qui est très actuelle et très intéressant.
Du coup, c'est un opéra plutôt comique, drôle?
Les deux, je dirais. Un peu tragique, un peu drôle, comique. Donc, opéra bouffin aussi. Mais il y a des thèmes très sérieux aussi, donc je laisserai plutôt un musicologue en parler. Mais oui, il y a beaucoup d'humeur. Et surtout comme Stefano Vizzioli, le régisseur, lui a fait, donc le directeur de scène, lui l'a fait très, très, très intéressant. Il est de Naples, Stefano, et il arrive d'apporter des sous-entendus extraordinaires. Donc, je me souviens de la première, la salle était pleine et la salle riait et pleurait en même temps. C'était fantastique.
Et puis au niveau de la musique, cette pièce, elle s'inscrit dans la musique du XVIIe siècle. Elle a des choses particulières à révéler.
La musique est baroque, donc, mais je sais, Aaron Carpenet a dû chercher dans d'autres compositeurs du temps, Falconieri notamment, et il a dû composer ou préparer une musique originale parce qu'il y avait juste, à mes connaissances, le basso continuo qui était existant. Et donc il y avait beaucoup de recherches à ce niveau-là, historique et musicologique, pour créer cette musique. On peut l'écouter à la radio, si jamais, mais le lien, je ne peux pas vous donner maintenant.
Des pièces musicales, il y en a des milliers qui se perdent au fil des âges. Comment est-ce que vous avez cru à la résurrection de celle-là ?
Mais c'est effectivement ce thème qui a fasciné Michel et moi, parce que venant de l'extérieur et vraiment ne pas étant spécialiste, on a vu ce travail comme très 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 passionnant. Et de voir que cette musique peut être perdu, donc cet opéra a été produit à Naples et à Venise et après plus du tout. Et quand on voit le manuscrit, qui est vraiment un truc, moi ça me plaît beaucoup d'aller dans les bibliothèques, j'adore ça, mais pour beaucoup de personnes ça peut paraître très, très poussiéreux, très vieux. Et quand on voit ce vieux manuscrit, si je peux dire, devenir une production comme ça extraordinaire, avec couleur, avec énergie, on peut imaginer comment c'était à l'époque. Et après, ça donne la soif de continuer, de voir qu'est-ce qu'il y a encore dans les archives qu'on n'a encore pas vu. Et tout ce travail de musicologue, c'est ça, c'est plein de passion. Et ça vient un peu une dépendance. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'on pourrait encore chercher? Et c'était le but de moi et Michel de faire comprendre à des gens comme nous, tout à fait de l'extérieur de l'opéra, que le travail qu'ils font, c'est un peu du FBI, c'est incroyable et très, très intéressant. Oui, oui, vous devez les voir dans les bibliothèques, chercher avec, comme ça, sans bouger, ils cherchent chaque petit détail. C'est juste c'est extraordinaire comme expérience.
Bon, on peut s'imaginer un petit peu grâce à votre livre dont on va continuer de parler, Alison sur Flou, dans quelques instants.
A3, c'est plus sympa. Format A3.
L'opéra, ça peut être palpitant, c'est palpitant, la preuve avec notre invitée, la journaliste Alison Sourflou, qui vient de participer à la redécouverte d'une œuvre publiée depuis 400 ans.
Avec le photographe Michel Juvet, elle publie donc un magnifique livre qui suit le parcours de l'opéra Veremonda depuis sa redécouverte jusqu'à sa première représentation moderne. Une quête qui nous emmène de Venise à Rome, à Turin également en Italie, et puis évidemment la Renaissance à Charleston en Caroline du Sud pour la première.
Alison Sourflou, pendant que les professionnels de la musique étudiaient Veremonda, le ressuscitaient, vous avez documenté leur travail à eux, un travail qui est plutôt méconnu.
Si, c'était le travail, donc l'opéra de Cavalli.
Oui, et puis aussi tout le travail des costumiers, des directeurs d'orchestre, tous ces gens qui ont participé à le retrouver, en fait.
Oui, nous sommes allés déjà photographier le manuscrit. On a fait le livre un peu comme un voyage avec eux, leur processus, et aussi un voyage de Michel et moi. Donc on a commencé à Venise, et quand on avait photographié le manuscrit, et le chef d'orchestre avait préparé un manuscrit pour la scène, nous sommes allés à Turin. Donc l'artiste Ugo Nespolo de Turin, c'est lui qui a dessiné les costumes et les scènes. Et après à Rome pour voir comment les costumes se font à la Sartoria Farani. Et ça, c'était juste sublime parce qu'on voyait tout le travail derrière scène, tout le travail à main, toute la couture, les costumes qu'ils font, notamment maintenant pour Alice dans les Pays des Merveilles. Il fait le séquel de le deuxième film de Alice au Pays des Merveilles, notamment. Et de voir tout ce travail qui n'est pas connu beaucoup, que nous ne pouvons pas accéder sinon. C'était très passionné, et Michel a fait des fantastiques photos de ces lieux. Pour moi, c'était vraiment beau, les photos qu'il a fait à Rome de cette sartoria sont juste fantastiques. Et après, à Charleston, nous sommes allés derrière scène, donc voir les artistes se faire maquiller, faire des interviews, les voir répéter beaucoup, voir comment les directeurs leur parlent pendant et après les répétitions, qui étaient absolument extraordinaires, parce que de voir cette conversation sur la répétition, c'est juste exclusif, non? Et après, voir comment ils vivent entre eux pendant un mois qu'ils sont à Charleston avant de faire la première. Donc, ils vivent ensemble pour un mois, et de voir toute la de dynamique, l'atmosphère qui règne pendant ce moment, c'était quelque chose.
Vous parlez de ce voyage qui paraît tout à fait étonnant, ces rencontres avec les différentes personnes qui travaillent autour de cette œuvre. Et puis, il y a bien sûr la rencontre avec le chef d'orchestre, Aaron Carpenet. Et je pense que pour lui, c'est aussi quelque chose de tout à fait palpitant, cette résurrection de cet opéra.
Oh, pour lui, c'était comme il m'a dit, c'était comme son enfant, de voir naître son enfant. Aussi de travailler pour plus d'une année dans la bibliothèque, à partir d'un manuscrit qui semble un peu un brouillon de quelqu'un, qui a des traces dedans, et de travailler méticuleusement, de voir comment faire la musique, comment faire le dialogue, et après de le voir naître, pour lui, c'était extraordinaire, c'est vrai.
Alors quand on part d'un matériau vieux de 400 ans et puis qu'on va présenter au public aujourd'hui, est-ce qu'il y a des adaptations à faire pour garder l'essence de l'œuvre et en même temps la rendre accessible au public d'aujourd'hui ?
Absolument. Alors comment m'a expliqué durant tout ce processus, il coupe déjà des grandes parties parce que l'opéra dure plus de 3 heures, donc il réduit à 1h30 environ. Et donc ils doivent couper des scènes, des parties, parce que l'audience aujourd'hui, le public, ne supporterait guère ça. Et aussi, pour leur rendre, pour donner aussi l'heure d'aujourd'hui, Francesco Cavalli, dont je sais assez peu, comme je ne suis pas musicologue, mais lui, il était très in gamba à son époque, très moderne, très contemporain, et de le rendre contemporain de nos jours, c'était aussi un but, donc de prendre Hugo Nespolo, l'artiste, pop art, et de faire déjà les scènes et les costumes très modernes, ça donnait l'air pour nos jours, et ça c'était un grand travail de leur part, parce que de faire l'opéra baroque, c'est une chose et c'est nécessaire, mais de aussi l'adapter, parce que j'ai entendu quelqu'un qui me disait, mais Francesco Cavalli, de nos jours, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui ? Donc c'était une de leurs questions.
D'ailleurs, dernière question, Alison Sourflou, cet opéra, plus près de chez nous, dans les arènes d'Avenche, par exemple, ça serait un rêve qui se réaliserait ?
Ça serait génial, évidemment, oui, je pense pour toute l'équipe, ça serait un rêve, oui. Donc, pour l'opéra, pour Cavalli, et aussi, je pense, pour l'équipe. Pour moi, personnellement, de les avoir ici en Suisse, j'avoue que ça serait vraiment un grand plaisir, et je pense pour Michel aussi.
Peut-être grâce à votre livre, ça donnera des idées à certains programmateurs de festival. Alors, de Veremonda Resurrection, ça raconte donc toute l'enquête pour redécouvrir ce manuscrit. On mettra toutes les informations sur notre site, et merci beaucoup, Alison Sourflou, d'être venue raconter cette aventure ce matin chez nous.
Merci à vous. Merci.
Vous souhaitez une très belle journée.
Belle journée, bon week-end, et puis à lundi, les amis.
À bientôt, lundi. Bon week-end.
À 3, c'est plus sympa. Format à 3.